10 ans plus tard.
Chapitre 3. Le sable de la plage de Saint-Jean-de-Luz, presque blanchi par le soleil, glisse entre mes orteils. Je fais un pas et je m'arrête. J'essaie de choisir un repère, la digue aux chevaux, le bar Toki Goshoa, et j'enfonce mon pied, le plus profondément possible, avant de le relever et de provoquer une minuscule cascade de grains fins. Un nouveau pas, je recommence. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'espère? Esteban a disparu depuis si longtemps. 10 ans, très exactement.
« Laisse tomber !» fait derrière moi la voix de Gabriel.
Je ne prends pas la peine de me retourner, de lui offrir un sourire. Esteban aurait eu 20 ans aujourd'hui.
« Regarde !» poursuit Gabriel. « On vient d'arriver et le vent efface déjà nos pas. »
Il a raison, comme toujours. Rien n'a changé depuis 10 ans. Le même vent balaye la plage de Saint-Jean-de-Luz. Les mêmes icourignacs flottent sur la jetée. Les mêmes surfeurs défient les mêmes rouleaux. Les mêmes serveurs servent les mêmes cafés. Les mêmes touristes, rares, se partagent la plage. Et pourtant, aucun détail n'est identique. Aucune vague n'est la jumelle parfaite de la précédente. Aucun nuage n'arrête jamais sa course. Aucun des figurants de cette scène ne cesse de vieillir. Gabriel s'avance, entoure ma taille, m'embrasse dans le cou. Je regarde nos deux ombres s'étirer sur le sable, collées, serrées, tels ces couples enlacés dans les vieux films en noir et blanc. Le décor est idyllique pour une promenade matinale romantique. Je me dégage déjà pourtant. Je suis désolée, Gabriel, je te le promets. Il y aura d'autres matins plus magiques. Esteban aurait 20 ans aujourd'hui. Esteban aurait été un étudiant brillant. Esteban aurait eu le bac avec mention et on l'aurait fêté en tête à tête dans le plus grand restaurant de la Côte Basque. Au jardin de Bakéa, peut-être. Esteban aurait été champion de natation. Les années lui auraient sculpté un corps d'athlète. Esteban aurait continué de jouer de la guitare. Esteban aurait sûrement laissé pousser ses cheveux blonds. Esteban m'aurait pris la main sur cette plage, le jour de son anniversaire. Et j'aurais été tellement fière. Tu me prends la main, Gabriel. Je ne la lâche pas. C'est la première fois que je reviens sur la grande plage. J'ai eu besoin de partir il y a 10 ans, quand la police a abandonné les recherches, 1 mois après la disparition d'Esteban. Loin, très loin. J'ai ouvert un cabinet face à une autre mer, plus froide, moins sauvage, à Étretat, entre deux falaises. J'ai eu besoin de tout reconstruire. Gabriel partage ma vie depuis presque tout ce temps. J'ai eu besoin de revenir, après 10 ans. La main de Gabriel est forte, chaude, solide et vide. Elle ne serre qu'une branche morte, 5 doigts de bois. Je me souviens de chacune de mes pensées, ce matin du 21 juin 2010, avant de laisser Esteban seul sur la plage. Aucun homme ne pourra jamais se mettre entre nous deux. Je dois garder une place vide dans mon lit, pour Esteban, quand il me rejoint à l'aube. Jamais aucun amant ne pourra me réveiller un matin avec un « je t'aime » aussi cristallin. Plus jamais Esteban ne me rejoindra à l'aube. C'est Gabriel qui désormais occupe la place vide dans mon lit. Mais aucun de ces « je t'aime » au réveil n'aura jamais la force de ceux d'Esteban. Gabriel m'embrasse encore, avec délicatesse. Ni aucun de ses baisers, même s'ils me font tellement de bien, ce matin. J'ai proposé à Gabriel de revenir avec moi, à Saint-Jean-de-Luz, pour 1 semaine, sans rien lui cacher de ce que je revenais déterrer. Il a tout de suite accepté. J'ai réservé une chambre à l'hôtel de la Caravelle, près de mon ancien appartement. La plus belle, aux dimensions d'une suite nuptiale, pour faire plaisir à Gabriel. J'ai les moyens, je gagne bien ma vie et je n'ai presque aucune envie. Je continue de laisser traîner mes pieds dans le sable, de le fouiller stupidement, comme si j'imaginais, 10 ans après, découvrir une pièce de 1 euro. Celle qu'Esteban aurait abandonnée avant de courir vers l'océan pour s'y noyer. comme si j'espérais en finir enfin avec le mystère, avec les milliers de questions sans réponse, avec les équations aux inconnues jamais résolues. Que s'est-il passé sur cette plage ce matin du 21 juin 2010 ? Gabrielle lâche ma main, enroule à nouveau son bras autour de ma taille. Nous marchons ainsi, côte à côte, accrochés. La plage est longue, plus d'un kilomètre, et nous progressons lentement. Gabrielle ralentit souvent pour m'embrasser. Je me contente d'accepter, de ne pas paraître trop distante, de me forcer à admirer son envoûtant regard sombre, ses cheveux bruns, sa peau qui reste bronzée même dans l'hiver normand. Aucun homme ne pourra jamais se mettre entre nous deux. Jamais je n'aurais cru que quelqu'un puisse remplacer Esteban. D'ailleurs, Gabriel ne le remplace pas. Il se contente d'occuper la place vide. Il a tout accepté. Mes douleurs, mes changements d'humeur, mes pleurs, mes peurs. Ne voir jamais aucun ami, seulement un psy, mes silences, mes séances. Il m'a empêchée de devenir folle. Sans se plaindre, sans poser de questions, il s'est contenté de réclamer un peu de tendresse, quelques caresses, comme un gentil et joli animal de compagnie. Je suis désolée, Gabrielle. Je peux être tellement cruelle. Nous marchons au hasard. Je fixe au bout de la baie les remparts du fort de Sokoa, la tour ronde qui le surplombe, les barques colorées qui clapotent à ses pieds. De la distance où je l'observe, on croirait davantage un château en Lego qu'une forteresse imprenable. Les rares personnes qui nous connaissent, Gabi et moi, pensent que je suis la plus forte. Ne suis-je pas le docteur Maddy Libéry, celle qui force l'admiration? Celle qui a su reconstruire sa vie alors que Gabriel renvoie l'image d'un poète, un peu fantasque, un peu rêveur, un peu glandeur. C'est pourtant tout l'inverse. Les gens ne comprennent rien. Depuis toutes ces années, c'est Gabriel qui me soutient. Je le vois d'abord de loin. Je ne distingue qu'une tache de couleur, indistincte, sur la plage déjà saturée de soleil. Les touristes sont encore rares, si tôt le matin. Je n'en compte qu'une cinquantaine, quelques couples, quelques joggeurs, quelques promeneurs de chiens, quelques familles. Je m'approche, entraînant Gabriel. Mètre après mètre, la tache devient plus nette, la couleur plus précise. Un maillot indigo. Je ne ressens encore que quelques picotements. Depuis 10 ans, chaque fois que je mets les pieds sur une plage, de sable ou de galets, chaque fois que je contourne des serviettes étalées, que j'évite des ballons lancés, des éclaboussures, des rires d'enfants qui courent se baigner, mon cœur se tord de la même douleur. Et je ne peux pas me retenir de suivre les silhouettes des garçons de 10 ans, trop maigres, dans leurs shorts de bain flottants, ni empêcher mon cœur de s'emballer quand j'aperçois l'un d'eux porter un maillot bleu. J'ai été foudroyée 10 fois, 100 fois de cette douleur, sur les plages d'Étretat, de Deauville, de Cabourg ou de Honfleur. Je lâche la main de Gabriel. J'approche de la digue du port. Un groupe de jeunes adultes improvise un volet. Les garçons sont musclés, les filles élancées, douées, le ballon ne tombe jamais. Gabriel est resté à les regarder. Je continue d'avancer. Mes picotements deviennent des piqûres de dards empoisonnées. Je distingue désormais parfaitement l'enfant au maillot indigo, même s'il me tourne le dos. Il a 10 ans. Il a posé sa serviette à côté de celle de sa mère, une femme blonde d'une 30 ans, très fine, sans fesses ni poitrine. Mes pensées s'affolent, mais je tente de me raisonner. Des maillots indigo portés par un garçon de 10 ans, j'en ai sans doute déjà croisé, j'en croiserai encore. Une voix sceptique dans ma tête n'est pourtant pas satisfaite. Certes, n'importe quelle boutique vend des maillots de cette couleur, mais en croiser un aujourd'hui, le jour précis où... Je retiens un cri. Le garçon s'est assis sur sa serviette. Je ne vois toujours pas son visage, mais je peux observer ses jambes repliées, le short de bain qui tombe sur ses cuisses. Le motif, imprimé sur le tissu indigo, jambe gauche. Une petite baleine blanche. Les dards qui lardent mon cœur deviennent des poignards. Le maillot que porte ce garçon est le même que celui d'Esteban il y a 10 ans. Combien de chances y a-t-il qu'une telle coïncidence se produise ici, aujourd'hui? Je tente de réfléchir rationnellement pour ne pas basculer dans le gouffre qui s'ouvre devant moi. Bien entendu, des centaines, sans doute des milliers de maillots strictement identiques à celui-ci sont portés par des centaines, des milliers de garçons. Mais ici, aujourd'hui... Gabriel ne m'a pas rejointe. Il doit être resté à mater les volleyeuses. Qu'il fasse ce qu'il veut, je ne vais pas être jalouse de gamines qui ont 30 ans de moins que moi. J'aime autant qu'il ne soit pas là. Ne pas avoir à lui expliquer que je veux encore m'approcher de ce garçon et de sa mère... Et tant pis si mes jambes n'arrivent plus à me porter. Je ne veux pas qu'il voie mes mains se tétaniser. Je ne veux pas qu'il me voie, hypnotisé par les cheveux blonds ébouriffés du garçon sur la serviette, par ses jambes maigres, par son squelette de crevette. Je suis désormais suffisamment près, moins de 10 mètres derrière eux, pour les entendre.
« On va se baigner, maman ?»
Sa mère ne lui répond pas. Elle se contente d'ouvrir un magazine. La suite se déroule au ralenti. Le garçon tourne doucement la tête pour supplier sa mère. Il ne me remarque pas. Je n'existe pas pour lui. Moi, je ne vois que lui. Je reconnais chaque trait de son visage, chaque pli de son sourire, chaque étoile bleue de ses iris, chaque courbe de son front à son menton, chaque fossette, chaque cil, chaque proportion, chaque expression. C'est lui! Ce n'est pas un enfant qui lui ressemble, ce n'est pas un sosie. C'est mon petit prince, c'est Esteban. Peu importe s'il aurait 20 ans aujourd'hui, peu importe si ça n'a aucun sens, si le croire n'est que pure folie, je sais que c'est lui. Le garçon au maillot indigo s'installe chaque matin sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, entre la digue du port et la terrasse du Toki Goshoa, toujours au même endroit, toujours avec sa mère. Je suis assise 8 mètres derrière lui. Je m'approche petit à petit, mètre après mètre, avec la patience qu'il faut pour apprivoiser un oiseau. Ni lui ni sa mère ne m'ont remarqué. Sa mère est toujours plongée dans un livre ou un journal, et le regard du garçon, quand il s'aperçoit de ma présence, me traverse comme si j'étais transparente, comme si je n'étais qu'un être de poussière, comme si le sablier de ma vie avait été retourné, que mon petit prince était bien vivant, que c'était moi le fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Je suis faite de chair et de sang. Je le sais, je le sens, et chacun de ces regards indifférents me déchire davantage les entrailles qu'une épée avec laquelle il me transpercerait. Je n'ai rien dit à Gabriel. Comment pourrait-il me croire? Il m'attend dans le lit de notre chambre. Il aime veiller longtemps sur ses écrans le soir et se réveiller tard. Il déteste se baigner le matin. Je le remercie intérieurement. Chaque matin, depuis que nous sommes arrivés, j'ai pu espionner ce garçon et sa mère sans avoir d'explication à donner. Une petite heure avant qu'il ne quitte la plage et que j'aille retrouver Gabriel à l'hôtel. Le garçon s'appelle Tom. Il est plutôt calme, obéissant. Il paraît un peu triste parfois. Il s'ennuie, je crois. Il se baigne souvent. Il est très bon nageur, comme l'était Esteban. Sa mère, elle, ne se baigne pas. Elle le surveille à peine. Elle se contente de lancer quelques recommandations sans lever les yeux de ses livres. « Ne t'éloigne pas, couvre-toi, sèche-toi. » Régulièrement, Tom demande à sa mère de venir jouer. Elle s'intéresse à lui quelques minutes, puis le laisse s'occuper seul et s'ennuyer. Tom n'a pas tout à fait la même voix qu'Esteban. Sa peau est un peu plus claire aussi. Mais ces deux infimes différences ne pèsent rien face à l'évidence de leur ressemblance. Si Tom et Esteban pouvaient se tenir l'un à côté de l'autre, il serait impossible de déterminer qui est qui. Des jumeaux parfaits. J'ai essayé de me raisonner, depuis 3 jours. Je suis une scientifique, j'ai suivi des études de médecine, je ne crois à aucun dieu ni à aucun paradis. Esteban aurait 20 ans aujourd'hui, Tom n'en a que 10. Même si Tom sourit comme Esteban, rit comme Esteban, nage comme Esteban, porte le même maillot qu'Esteban. Tom ne peut pas être Esteban. Alors je me suis raccrochée à une preuve, la seule qui pouvait encore me convaincre que je ne tombais pas dans un puits sans fond de suppositions, m'empêcher d'entretenir une aussi absurde illusion. L'angiome d'Esteban. Sa marque de naissance, bien visible, à hauteur de son pubis, sous son maillot. J'ai guetté, chaque fois que Tom se levait, se déshabillait, s'habillait. Chaque rare fois où sa mère époussetait le sable collé sur sa peau, j'ai fixé le bas du ventre de ce garçon, partagé entre deux émotions. Celle de la raison, l'espoir qu'aucune tache sombre n'y apparaisse et qu'enfin cette obsession délirante cesse. Celle du cœur, l'espoir que cette marque de naissance soit imprimée sur son naine droite, la preuve qu'Esteban est là, bien vivant devant moi. Et tant pis s'il n'a pas vieilli d'une journée en 10 ans, s'il ne se souvient pas de moi, s'il porte un autre prénom et possède une autre maman, peu importe où il est parti et ce qu'il a vécu pendant toutes ces années. Il est revenu. Malgré tous mes efforts, je n'y suis pas parvenue. Tom ne s'est jamais montré nu. Pudique, il s'enroule dans une serviette dès qu'il retire son maillot. Je n'ai rien distingué non plus quand il sort de l'eau et que son short alourdi glisse un peu plus sur sa peau. J'ai maudit sa mère, qui aucune fois en 3 jours n'a sorti un tube de crème solaire. La peau claire de Tom a rougi dès le premier matin. Jamais il ne s'en plaint, mais les coups de soleil rendent plus difficile encore de distinguer la moindre marque plus foncée sur son épiderme. Comme si sa mère avait voulu la dissimuler en laissant le soleil le brûler.
Maman, tu viens ?
Tom est dans l'eau. Les vagues montent jusqu'à sa taille, mais quelques mètres au large, certains rouleaux sont beaucoup plus impressionnants. N'importe quelle vague plus forte pourrait le renverser. Je résiste à l'envie de hurler, de lui ordonner de sortir, d'injurier sa mère. Elle lève à regret les yeux de son livre.
« Tu viens, maman ?»
insiste Tom.
« Pas te baigner, juste me prendre en photo. Regarde !»
Il saute de toutes ses forces dès qu'une vague menace de lui broyer le dos, retombe dans l'écume, crache l'eau salée, rit et essaie de retrouver son équilibre avant qu'une autre vague ne le fasse chavirer. Esteban lui aussi aimait jouer ainsi. Mais j'étais avec lui.
« Maman !»
Contre toute attente, cette fois, sa mère se lève. Elle attrape son téléphone portable et marche droit vers l'océan. Je suis à moins de 7 mètres de sa serviette. C'est le moment. Je surveille des yeux la trentenaire. Elle a porté son téléphone à hauteur de ses yeux tout en continuant d'avancer vers l'eau. Je n'aurai pas d'autres occasions. Il n'y a personne autour de nous, à l'exception d'un couple de grands-parents assoupis et de leurs petits-enfants occupés à creuser une piscine. Je rampe, sans me précipiter. D'un geste assuré, j'attrape le sac de plage de la mère de Tom. Son portefeuille est là, en vrac, au milieu des livres, des stylos, des clés, de divers flacons que je n'ai pas le temps de détailler. Un coup d'œil vers le large, la mère de Tom me tourne toujours le dos. Mes doigts se referment sur le portefeuille, l'ouvrent, écartent les pans aussi vite que possible. Je repousse à plus tard la rafale de mauvaises pensées. Je deviens cinglée, je fouille dans les affaires intimes d'une inconnue, si je me fais pincer, si... J'extirpe une carte d'identité. Je dois la mémoriser le plus vite possible. Je n'aurai qu'une seconde. Ensuite, je dois tout ranger, m'éloigner, redevenir transparente. Mes doigts tremblent. La carte plastifiée m'échappe, glisse, tombe dans le sable. Merde ! Mes yeux supplient l'océan. Tom est toujours dans l'eau. Sa mère se tient debout, portable à la main, attendant qu'il ait fini de jouer au dauphin. Je récupère la carte, j'écarte le sable d'un revers d'auriculaire et je lis. Amandine Fontaine, La Souille, hameau de Froidefond, 63 790, Murolles.